Donc aujourd'hui, je vais me centrer sur un problème classique de philosophie politique et morale qui est le rapport entre les moyens qu'on utilise, les fins qu'on vise quand on agit. Bon. Donc toujours, je vais essayer de me situer dans la perspective que j'ai adoptée pendant les trois séances, c'est-à-dire avec l'idée de repenser les logiciels de la critique et de l'émancipation, donc en utilisant cette vocabulaire informatique. Alors j'aurai trois temps. Une première, c'est une polarisation philosophique sur cette question des fins et des moyens entre Kant d'une part et Machiavel de l'autre. Puis après une polarisation politique entre anarchistes et bolcheviques, avec l'esquisse d'une troisième voie avec Rosa Luxembourg. Et puis troisièmement, l'introduction de la figure de la désobéissance civile entre philosophie et politique. Alors donc j'aborderai trois scènes. La première scène, c'est une scène philosophique, et c'est la polarité qu'on peut établir après coup entre Kant et Machiavel. Donc Kant, 1724-1804. Je commencerai par lui, bien que ce ne soit pas la chronologie, mais parce qu'il participe d'une famille de positions aujourd'hui assez classique. Je serai plus bref, parce que cette façon classique de poser les problèmes et en général assez facilement admise. Donc c'est pas la plus difficile à comprendre. Alors que Machiavel, c'est plus compliqué parce qu'on verra qu'on peut avoir une lecture éthique de Machiavel. Alors Kant, d'abord, on va partir de un ouvrage de philosophie morale qui est intitulé Fondement de la métaphysique des mœurs, Fondement de la métaphysique des mœurs, qui date de 1785. Où Kant écrit justement à propos de la notion de philosophie morale. Et il dit, car qu'il doit y avoir une telle philosophie, cela résulte de toute évidence de l'idée commune du devoir et des lois morales, de l'idée commune du devoir et des lois morales. Tout le monde doit convenir que pour avoir une valeur morale, il faut qu'une loi implique en elle une absolue nécessité. Pour avoir une valeur morale, il faut qu'une loi implique en elle une absolue nécessité. Nécessité, par exemple, l'exemple que prend Kant, c'est le commandement « tu ne dois pas mentir » et le « tu ne dois pas mentir » ne doit pas dépendre des circonstances où il est placé dans ce monde, c'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, tu ne dois pas mentir. On verra tout à l'heure comment Trotsky va justifier le mensonge dans l'action révolutionnaire. Bon. Kant donc parle alors de loi a priori ou d'impératif catégorique, et Kant ajoute ce qu'il y a d'elle essentiellement bon consiste dans l'intention, quelles que soient les conséquences. L'intention est première, quelles que soient les conséquences. À un moment donné, il précise, une action accomplie par devoir tire sa valeur morale, non pas du but qui doit être atteint par elle, mais de la maxime d'après laquelle elle est destinée. Non pas le but pratique qu'on vise à atteindre, mais la maxime morale d'après laquelle elle est décidée. Cette maxime, Kant lui donne la figure de la loi universelle. Bon. Donc indépendamment des circonstances. Donc on pourrait dire qu'il y a chez Kant, si on se pose la question des rapports entre les moyens utilisés et les fins poursuivies, une continuité forte entre les moyens et les fins, fin au sens du but de l'action, avec, disons, un caractère nécessairement moral des moyens adossés à des principes, à des intentions morales. Enfin, ce qui est moral principalement dans l'action, ce sont les moyens utilisés, qui sont adossés à des principes et à des intentions morales. Donc on pourrait dire qu'il y a moins que continuité entre les moyens et les fins pratiques, il y a une continuité entre les moyens et les finalités morales de l'action. Les buts pratiques de l'action étant secondaires pour Kant. Alors là, c'est relativement clair, on a des principes moraux qui sont intangibles et qui donnent le caractère moral à l'action. Et c'est ça qui compte. Bon. Avec Machiavel, on a une autre vision des choses, 1469-1527. Souvent est associée à Machiavel l'idée d'une sorte de cynisme, de caractère immoral. Bon. Ce qui, à mon avis, est une accusation à tort. En fait, le prince de Machiavel, le grand livre de Machiavel, écrit en 1513, mais publié de manière posthume en 1532, n'est pas, à mon avis, quelque chose qui célèbre l'immoralisme, qu'on appelle le machiavélisme. Quand on dit que c'est machiavélique, on pense souvent au cynisme, à l'immoralisme. En fait, on peut trouver dans le Prince de Machiavel une réflexion sur la complexité de la morale dans les affaires politiques. Pour Machiavel, les fins de l'action politique ne sont pas déconnectées de la référence à un bien commun. Et c'est ce que Machiavel appelle dans le vocabulaire de l'époque l'État ou maintenir l'État. L'État, ce n'est pas la construction institutionnelle qu'on connaît aujourd'hui, c'est davantage l'idée d'un bien commun dans une cité, au-delà des intérêts particuliers. Et il y a donc une référence à un bien commun et de manière non exclusive des composantes morales, non exclusive d'une place pour les intérêts particuliers du prince, mais qui sont, disons, un élément à côté de composantes morales. Alors, comment il peut y avoir une dimension morale chez Machiavel? C'est lié à une de ses intuitions les plus intéressantes, les plus pré-sociologiques, on pourrait dire. C'est l'idée que les circonstances indépendantes de notre action, donc ce qui ne dépend pas de nous quand on agit, ce qui est beaucoup de choses quand même, ce que Machiavel appelle la fortuna, donc ces circonstances indépendantes de la volonté sont arbitres de la moitié de nos actions. C'est-à-dire la moitié de nos actions dépendent de facteurs qui ne dépendent pas de nous. Bon. Des circonstances indépendantes de nous. Et donc, comme quand j'agis, je suis amené à faire rentrer mon action dans le monde, et dans ce monde, donc il y a au moins la moitié des choses qui ne dépendent pas de ma volonté, et bien, quand j'essaye de faire rentrer mes intentions dans le monde, ces intentions sont déviées par les différentes circonstances naturelles, historiques, etc., qu'elles rencontrent. Donc, mon action rencontre des circonstances. Et ces circonstances conduisent à faire dévier mes intentions initiales, jusqu'à pouvoir, parfois, pas tout le temps, mais parfois, les entraîner dans une direction justement inverse à celle que je visais. C'est ce qu'aujourd'hui les sociologues appellent les effets pervers, c'est quand les effets sont contraires aux intentions qu'on vise. Alors, dans cette perspective, une fois qu'on a admis cette hypothèse très sociologique chez Machiavel, l'analyse politique ne peut pas cantonner sa réflexion sur les fins souhaitables et sur la cité juste, la meilleure cité, même si cette dimension peut avoir une place. On doit constamment se poser la question de l'étude de la vie politique concrète. C'est pour ça que l'analyse de Machiavel va ouvrir sur ce que j'appelle une inquiétude éthique. Une inquiétude éthique qui va rompre cette espèce de tranquillité morale entre les moyens et les finalités poursuivies, qu'on trouve souvent chez les philosophes traditionnels, et on l'a vu chez Kant. Je cite Machiavel dans Le Prince, « En effet, tout bien considéré, on trouvera quelque chose qui paraît une vertu, et s'il la suit, le prince, il irait à sa ruine, et quelque chose qui paraît un vice, et s'il la suit, il en est pour lui sûreté et bien-être. » Qu'est-ce que découvre ici Machiavel? Quelque chose qui bouscule l'éthique classique, c'est pour ça que les penseurs religieux après Machiavel ont inventé l'idée du machiavélisme, c'est-à-dire du cynisme, bien après la mort de Machiavel. Qu'est-ce qui bouscule? C'est l'idée que le bien peut produire le mal et le mal le bien. C'est ça qui bouscule complètement, disons, l'éthique traditionnelle. Le bien peut produire le mal. Prendre un exemple fictif, je vois une personne âgée dans la rue qui est sur le point de traverser la route. Il y a une voiture qui arrive, je me précipite sur elle pour la sauver. Elle est cardiaque, elle meurt dans mes bras. J'ai voulu la sauver, je l'ai tuée. Le bien peut produire le mal. Évidemment, en fonction de circonstances qui ne dépendent pas de moi, je ne connaissais pas son état de santé, etc. Bon. Le bien peut produire le mal. Le mal peut produire le bien. Là, je prendrai un exemple historique. En 1979, le Vietnam envahit le Cambodge. Le Vietnam qui est communiste, mais qui est proche de l'URSS, envahit le Cambodge, qui est communiste aussi, mais proche de la Chine. Pourquoi le Vietnam envahit le Cambodge? Globalement, si on prend, disons, l'analyse des géostratèges, on peut penser que c'est pour des raisons impérialistes, parce qu'il y a une série de territoires sur lesquels lorgne le Vietnam depuis longtemps du côté du Cambodge et une rivalité, disons, plus ancienne. Bon. Donc, les raisons du Vietnam sont plutôt des raisons très utilitaires et pas des raisons morales. Mais en même temps, ce mal va conduire au bien. Pourquoi? Parce qu'au pouvoir au Cambodge, il y a ce qu'on appelle les Khmers rouges, qui ont éliminé environ, en fonction des chiffres, ça peut varier, mais autour d'un million de population, c'est le génocide cambodgien par les communistes cambodgiens, considéré comme un des grands génocides du XXe siècle. Et donc, l'envahissement du Cambodge par le Vietnam arrête le génocide par les Khmers rouges et met en déroute les Khmers rouges. Le mal peut produire le bien. Le bien peut produire le mal le bien. Voilà la grande découverte de Machiavel qui rend la question morale en politique beaucoup plus compliquée. Parce que le problème, c'est alors comment on peut ajuster les moyens et les fins de l'action à partir du moment où on ne peut pas se contenter de ses bonnes intentions. Il n'y a pas de recette miracle pour Machiavel et il y a toujours à avoir une interrogation éthique en situation et donc pas indépendamment de la situation. Et donc suivre un fil éthique en politique devient compliqué. Car selon les mots de Machiavel, le prince ne doit pas se départir du bien s'il le peut, mais savoir prendre la voie du mal si cela lui est nécessaire. Ne doit pas se départir du bien s'il le peut, mais savoir prendre la voie du mal si cela lui est nécessaire. Le plus souvent, prendre la voie du bien, mais du fait des circonstances, parfois, pour viser des circonstances justes, être amené à utiliser la voie du mal. Aucune garantie ultime et définitive ne nous délivre de la part d'indétermination et d'incertitude propre à l'action. C'est parce que l'action est en partie incertaine, indéterminée, et que donc, dans son cours de l'action, interviennent des circonstances qui ne dépendent pas de moi, que pour que mon action soit morale, il ne suffit pas que je me repose sur mes bonnes intentions, mais il faut que je me pose la question des effets. Et parfois, pour avoir des effets moraux, il faut que j'utilise des moyens qui sont immoraux. Voilà, disons, la grande découverte de Machiavel. On n'est pas du côté du machiavélisme au sens d'un cynisme, mais on est du côté de l'inquiétude machiavélienne, c'est-à-dire comment avoir des fins justes en politique à partir du moment où l'action n'est pas seulement dépendante des intentions de ceux qui font l'action, mais de circonstances en partie indépendantes. Et donc, Machiavel, c'est pas une philosophie comme on croit souvent de la toute-puissance du prince et du cynisme, c'est une philosophie de la fragilité humaine en politique. L'action humaine est fragile puisque une part importante de ce qui arrive ne dépend pas de ses intentions, de sa volonté. Et c'est une pensée de la fragilité éthique de l'action politique. C'est-à-dire que c'est très difficile, beaucoup plus difficile qu'on le croit, beaucoup plus compliqué qu'on le croit, d'avoir une politique morale. Cette deuxième approche, et je suis passé un peu plus longuement sur Machiavel, parce que cette approche de Machiavel est peu courante, et d'une certaine façon c'est moins connu de Kant, on va plutôt avoir l'opposition entre le moralisme et l'immoralisme, alors que là, j'essaie de montrer qu'entre Kant et Machiavel, il y a deux versions de la morale en politique, deux versions différentes, mais ce sont deux versions de la morale. Et donc, on réintègre Machiavel à côté de Kant, dans une tension avec Kant, du côté de la réflexion éthique en philosophie. Ça, c'était ma première scène, une scène philosophique dont on va retrouver les polarités dès qu'on va rentrer dans la deuxième scène, et c'est ma deuxième partie, une scène de politique révolutionnaire. C'est la polarité entre anarchisme et bolchevisme d'une part, et puis la position spécifique ici d'une autre révolutionnaire qui s'appelle Rosa Luxembourg. Donc du débat philosophique, je vais passer à un débat politique entre révolutionnaires au XIXe siècle et au début du XXe siècle, toujours sur la question des rapports entre les moyens et les fins de l'action. Ça va me permettre d'entrer de manière plus précise encore dans ce qu'on peut appeler les antinomies de l'émancipation, les antinomies de la transformation sociale, si on reprend toujours ce mot de Proudhon, d'antinomie. C'est-à-dire que l'action émancipatrice, l'action transformatrice, doit assumer des antinomies plutôt que de prétendre, disons, être dans une forme d'harmonie. Bon. Hein? L'harmonie que recherche Kant cette idée de la nécessité d'un accordement entre les moyens moraux qui sont le principal et les finalités morales de l'action sans se soucier de la question des effets. Alors cette question générale va être développée sur un terrain plus précis, c'est le terrain de la liberté de la démocratie. Puisque c'est un débat qui a été posé dans le mouvement révolutionnaire à l'époque. Alors, Il est intéressant de noter deux pôles, même si cette polarisation est réductrice et ne rend pas bien compte complètement des courants et des auteurs, mais de fonctionner en termes de polarité, ça nous donne un peu un éclairage sur comment formuler le problème. On peut avoir une polarité entre le pôle anarchiste et le pôle bolchevique. Bon. Et on va voir qu'il va y avoir des correspondances entre la philosophie et la politique, puisqu'il va y avoir des proximités entre le pôle kantien et le pôle anarchiste, et des proximités entre le pôle bolchevique et le pôle machiavélien. Et on verra comment Rosa Luxembourg, par rapport à ça, se situe, disons, de manière décalée. Alors, des proximités entre la problématisation des rapports moyen-fin de l'action chez Kant et le pôle anarchiste, comme Machiavel et le pôle bolchevique, mais bien sûr, c'est pas le même contexte historique, c'est pas les mêmes références théoriques, c'est pas le même vocabulaire, etc. Ce sont simplement des analogies qui permettent d'associer ces deux grandes catégories de réflexion. Alors, premier pôle, le pôle, je vais appeler le pôle anarchiste kantien, parce qu'on va voir que chez les anarchistes, il y a peut-être un deuxième pôle aussi. Bon. Le pôle anarchiste kantien. Une partie des anarchistes, donc c'est pas tous les anarchistes, une partie des anarchistes tendent à défendre ce qu'on pourrait appeler une stricte continuité et identité entre les fins et les moyens de l'action. Stricte continuité et identité entre les fins et les moyens de l'action, c'est-à-dire les moyens de l'action doivent ressembler aux fins qu'on poursuit. Stricte continuité, stricte identité. C'est en cela qu'il y a des proximités avec Kant si on associe le mot fin à finalité morale comme chez Kant. À des principes moraux, à des intentions morales, pas forcément à des buts pratiques. Alors, la sociologue et militante libertaire Irène Peyra, dans un petit livre intéressant qui s'appelle « Peut-on être radical et pragmatique ?», qui date de 2009, note que c'est pas la seule tendance, cette tendance anarchiste kantienne. Il y a une tendance qu'on va pouvoir appeler aussi pragmatiste chez les anarchistes, qui travaillent les cultures anarchistes. C'est pour ça que je suis amené simplement comme ça à distinguer à titre analytique un pôle anarchiste kantien, sur lequel je vais me centrer ici, c'est plutôt représenté ici par Bakounine, et puis il y aurait un pôle anarchiste pragmatiste, ce serait représenté par Pierre-Joseph Proudhon. Alors, pour le pôle anarchiste kantien, stricte continuité des fins et des moyens de l'action, de leur identité, pourquoi ? Parce que s'il n'y avait pas une telle continuité et identité, les fins risqueraient d'être contaminées par les mauvais moyens. Donc, c'est ça l'argument principal des anarchistes kantiens. Si j'utilise de mauvais moyens, je vais contaminer les fins. Si j'utilise des moyens antidémocratiques pour construire la démocratie, je vais contaminer mon projet démocratique, par exemple. Donc c'est le cas notamment, d'où le refus anarchiste du centralisme du parti, parce que ça ne correspond pas à la cité qu'on veut construire, le refus de l'autorité, le refus de la prise du pouvoir de l'État, le refus de la participation aux élections, tout ça c'est refuser des moyens qui sont contraires au but libertaire, émancipateur des anarchistes. Donc on voit ça particulièrement chez Bakounine, hein, 1814-1876, qui est l'anarchiste qui va rentrer en conflit avec Marx et ses partisans au sein de ce qu'on appelle la première internationale ouvrière, donc à la fin du 19e siècle. On peut s'arrêter par exemple sur une citation de Bakounine, dans une petite brochure qui s'appelle « Étatisme et anarchisme et anarchie 1873 ».« Étatisme et anarchie 1873 », brochure qui est directement orientée contre Marx. Alors, voilà ce que dit Bakounine. Selon eux, alors eux c'est les marxiens, comme ils les appellent, selon eux, ce joug étatique, cette dictature, est une phase de transition nécessaire pour arriver à l'émancipation totale du peuple. C'est-à-dire l'idée d'un pouvoir d'État qui passe par une forme de dictature du prolétariat, c'est une phase de transition nécessaire pour arriver à l'émancipation totale du peuple. L'anarchie ou la liberté étant le but, l'État ou la dictature le moyen. Bakounine reconnaît que le but est le même que les anarchistes, la liberté, mais le moyen, c'est l'État et la dictature. Ainsi donc, pour affranchir les masses, on devrait commencer par les asservir, dit Bakounine. Ainsi donc, pour affranchir les masses, on devrait commencer par les asservir. Et il ajoute, la liberté ne peut être créée que par la liberté. Par la libre organisation des masses laborieuses de bas en haut. Donc, il faut utiliser des moyens libertaires pour construire une société libertaire, autrement les fins seraient contaminées par les mauvais moyens. Ce positionnement de Bakounine et des anarchistes kantiens tend à alimenter une méfiance à l'égard des organisations partisanes en particulier, mais plus largement à l'égard toutes les formes d'organisation qui ont tendance à être contraires au but, aux finalités libertaires de l'action politique. Alors, il faut reconnaître qu'il y a une force historique de ce type de questionnement éthique et politique au niveau de l'anarchisme, puisque la plus grande part des expériences qui se sont réclamées du communisme au XXe siècle ont sombré dans des formes autoritaires, voire totalitaires. Donc il y a un élément fort de ce point de vue, d'un point de vue historique. Les moyens centralistes et autoritaires des bolcheviks n'ont pas débouché sur des fins émancipatrices, mais sur des sociétés oppressives. Donc ça, c'est un fait historique. Les moyens ont bien compromis les fins. Mais le problème, c'est que ce pôle anarchiste, dans ses tonalités kantiennes, ne pose qu'une partie du problème éthique. Il ne faut pas oublier la part machiavélienne. Oui, le mal peut produire le bien, mais le bien le mal, puisque nos intentions ne sont pas toutes puissantes dans l'action. Et c'est ce pôle machiavélien que va reprendre le deuxième pôle politique que je vais appeler le pôle bolchevique. Alors, les bolcheviks, comme Lénine et Trotsky rallié tardivement au bolchevisme, hein, seulement en 1917, au départ il est plutôt opposé à Lénine, les bolcheviks vont défendre une position donc plutôt machiavélienne qu'on va appeler d'hétérogénéité forte des moyens et des fins. Hétérogénéité forte des moyens et des fins. C'est-à-dire, on peut utiliser des moyens assez éloignés aux fins pour faire advenir ces fins. C'est-à-dire, globalement, c'est presque tous les moyens sont bons pour aboutir aux fins morales et politiques recherchées, notamment l'abolition du capitalisme. Y compris l'usage d'un parti centralisé, d'une discipline de ferme, de formes de répression contre les adversaires, par exemple, dès le début de la révolution bolchevique, contre les socialistes révolutionnaires ou les anarchistes russes. Alors, quel est le raisonnement des bolcheviks? Les bolcheviks partent d'un constat quasi sociologique aussi. Les organisations révolutionnaires, parce qu'elles baignent dans la société capitaliste, tendent à être influencées par cette société capitaliste. Et donc, peu à peu, elles tendent à dévier de leur but révolutionnaire, puisque à peu elles s'insèrent dans la société capitaliste, elles sont influencées, elles lui ressemblent de plus en plus, et donc peu à peu elles s'insèrent dans la société capitaliste. Et donc, il faudrait protéger les organisations révolutionnaires de l'influence de la société capitaliste dans laquelle ils sont insérés. Et pour ça, ils préconisent une certaine fermeture par rapport à la société environnante, en fait, afin de protéger l'organisation révolutionnaire des mauvaises influences capitalistes. C'est ça le raisonnement. Si on ferme l'organisation, c'est pour éviter les influences du capitalisme qui, peu à peu, amènerait les organisations révolutionnaires à abandonner leur but révolutionnaire. Le parti apparaît justement comme le lieu principal d'élaboration des dimensions stratégiques et tactiques de l'action révolutionnaire. Donc, le lieu à privilégier pour le protéger des influences bourgeoises. C'est en gros la thèse d'un des textes les plus célèbres de Lénine, qui s'appelle « Que faire ?», qui date de 1902 et qui est un texte sur pourquoi une organisation centralisée du parti. Dès 1902, dès « Que faire ?». Dans une circonstance très particulière, il s'agit d'un parti dans les conditions du tsarisme, c'est-à-dire au sein d'un régime autocratique. Mais c'est le cas aussi de Trotsky, 1879-1940, dans un livre intitulé « Leur morale est la nôtre ».« Leur morale est la nôtre », c'est un texte plus tardif. Trotsky a déjà rompu avec Staline, il est poursuivi par Staline, on est en 1938. Et dans ce texte de 1938, « Leur morale est la nôtre », il intervient directement sur le terrain moral et politique. Trotsky constate alors « La démocratie ne s'est pas établie par des méthodes démocratiques, loin de là ». Il prend l'exemple historique. Pour construire la démocratie, on n'a pas utilisé la démocratie, les méthodes démocratiques. Premier élément. Et il va prendre aussi l'exemple de la guerre d'Espagne, qui est un exemple fort par rapport à « Qui veut la fin, la victoire sur Franco, doit vouloir les moyens, la guerre civile avec son cortège d'horreurs et de crimes ». On pourrait dire la même chose de Hitler. Qui veut la fin, la victoire sur Hitler, doit vouloir les moyens, la guerre civile avec son cortège d'horreurs et de crimes. Donc il y a une argumentation forte des bolcheviks. C'est la question des effets sur la réalité et le fait qu'on doit pouvoir utiliser des moyens désajustés aux fins pour que ces fins puissent advenir. D'où la conclusion générale de Trotsky. La société sans antagonismes sociaux sera, cela va de soi, sans mensonge et sans violence. Donc l'objectif, c'est une société sans mensonge et sans violence, mais on ne peut jeter vers elle des ponts que par les méthodes de la violence. Mais on ne peut jeter vers elle des ponts que par les méthodes de la violence. On voit bien ici donc l'opposition entre le pôle anarchiste kantien, le pôle bolchevique, qui ressemble à l'opposition entre le pôle kantien et le pôle machiavélien dans la façon de traiter les rapports entre les moyens et les fins de l'action. Alors, dans les débats révolutionnaires, on peut trouver une vue décalée qui pourrait être l'amorce d'une troisième voie, et mon petit point, c'est de la deuxième partie, qui est amorce d'une troisième voie chez Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg, 1871-1919, c'est aussi une révolutionnaire, elle est née en Pologne, mais elle va militer principalement dans la social-démocratie allemande. Elle a une particularité assez originale dans les débats de l'époque, fin du 19e, début du 20e. À la fois, elle est opposée au réformisme, ce qu'on appelle à l'époque le révisionnisme, mais elle est opposée aussi à Lénine. Très tôt, dès le début du 20e siècle, elle va être opposée à sa vision centraliste du parti. Et puis après, elle va être une des premières critiques des premiers pas autoritaires de la révolution russe. Elle va aussi se détacher des anarcho-syndicalistes et critiquer les anarcho-syndicalistes de son époque, tout en étant révolutionnaire. Donc elle a un positionnement assez particulier dans cette galaxie. Et autre chose, elle est une des rares dirigeantes de la social-démocratie européenne à s'être opposée jusqu'au bout à la boucherie de 14-18, ce qui l'amènera à passer la majeure partie de la guerre en prison. Elle est assassinée peu de mois après être sortie de prison, le 15 janvier 1919, par des militaires au cours de la répression de ce qu'on appelait la Commune de Berlin, donc une insurrection révolutionnaire à Berlin, et elle sera assassinée. La répression est dirigée d'ailleurs par son ex-camarade, méfions-nous des anciens camarades, des amis de 30 ans, c'est son ex-camarade social-démocrate, Gustav Noske, qui dirigera la répression, qui la tuera. Alors, Rosa Luxembourg a amorcé dans certains de ses textes des positions décalées par rapport aux deux pôles précédents. C'est ce que j'appellerais une homogénéité ou hétérogénéité relative des moyens et des fins. Homogénéité ou hétérogénéité relative des moyens et des fins. L'important, c'est relatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas une stricte homogénéité, on n'a pas une stricte hétérogénéité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Dans ses réflexions, elle a essayé de prendre en compte tout à la fois le fait que les organisations révolutionnaires et les militants révolutionnaires sont insérés dans la société telle qu'elle est, donc avec des influences de cette société, et en même temps qui visent à dépasser cette société dans quelque chose qui est différent. Ce qui supposerait alors de faire naître au sein de la société actuelle, dans les moyens mêmes de la lutte, qu'on pourrait appeler des germes d'une société autre, des germes, grâce à une tension interne, à un travail à la fois collectif et individuel sur ces organisations révolutionnaires. Mais à la différence des anarchistes, elle ne pense pas que les moyens peuvent être complètement libertaires. Il y a des décalages entre les moyens utilisés et les fins poursuivies. Pourquoi elle l'explique notamment donc dans un texte orienté contre Lénine, qui s'appelle « Question d'organisation de la social-démocratie russe ».« Question d'organisation de la social-démocratie russe », qui est un texte de 1904, et qui est orienté contre un texte de Lénine, paru aussi en 1904, qui s'appelle « Un pas en avant, deux pas en arrière ». Un pas en avant, deux pas en arrière, qui est aussi un livre où Lénine défend une conception centraliste de l'organisation. Elle va poser alors le problème de toute organisation politique et révolutionnaire, elle aussi de manière quasi sociologique, mais avec une autre perspective. Alors voilà ce qu'elle écrit, la réalisation de cette volonté révolutionnaire n'est possible que par-delà les limites du système social existant. Donc c'est au-delà de la société actuelle que peut naître une société différente. Or, les masses ne peuvent acquérir et fortifier en elles cette volonté que dans la lutte quotidienne avec l'ordre constitué, c'est-à-dire dans les limites de cet ordre. Il faut aller au-delà de cette société, mais en même temps, pour aller au-delà de cette société, on développe les capacités à sortir de cette société dans la société même, donc dans les limites de cet ordre, dans la limite de cette société. D'une part, les masses du peuple, d'autre part, le but placé au-delà de l'ordre social existant, d'une part, la lutte quotidienne, d'autre part, la révolution. Tels sont les termes de la contradiction dialectique où se meut le mouvement socialiste. Donc le mouvement socialiste serait mu dans une contradiction indépassable, dans une autonomie, antinomie, comme dirait Proudhon, indépassable entre le fait que je suis là, d'une certaine façon, avec des organisations, des syndicats, des associations, des partis, d'une certaine façon, puisque je suis dans cette société, je lui ressemble, et je veux aller au-delà dans une société qui est organisée selon d'autres principes. Et là, il y a une antinomie à penser. Alors, que faire par rapport à cette antinomie? Il en résulte qu'elle doit procéder en louvoyant sans cesse entre deux écueils. Bon. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution complètement garantie. Il y a un louvoiement, il y a un tâtonnement, et avec toujours la possibilité de tomber dans un écueil ou dans un autre. Voilà pourquoi c'est une illusion contraire aux enseignements de l'histoire que de vouloir fixer une fois pour toutes la direction révolutionnaire de la lutte socialiste et de garantir à jamais le mouvement ouvrier de toute déviation opportuniste. C'est-à-dire, on ne peut jamais avoir de garantie définitive du fait de cette dimension sociologique qu'il n'y aura pas de déviation, que le mouvement ouvrier ne va pas s'intégrer dans la société telle qu'elle est. Ce n'est que par le mouvement même qu'on peut le surmonter. L'idée que c'est le mouvement, donc la pratique qui permet de surmonter. Pas une formule d'organisation, pas le fait que ce soit centralisé, etc. Par le mouvement même qu'on peut le surmonter, en cédant sans doute des ressources qu'offre la doctrine marxiste, en cédant aussi de repères rationnels qui sont ceux de la théorie. Voilà. Dès 1899, donc contre les thèses révisionnistes de celui qui défendait le réformisme à l'époque, en Allemagne, qui s'appelait Edward Bernstein. Le propre de Bernstein, c'était de dire qu'il fallait que le mouvement, que le mouvement était tout et qu'on devait abolir le but. Bon, le but révolutionnaire. Et là-dessus, Rosa Luxembourg, on va y réagir dans une brochure qui s'appelle Réforme sociale ou révolution, où elle montre que, certes, il faut des réformes, mais que des réformes ne peuvent être des étapes sur le chemin d'une révolution que si on maintient un but révolutionnaire. Donc, si on abandonne le but, peu à peu, on sera amené à faire des réformes qui ne réformeront rien, d'une certaine façon. Donc, dans ce texte contre Bernstein, Réforme sociale ou révolution, elle utilise une formulation très proche que celle contre Lénine. Donc, c'est pas simplement contre Lénine, mais c'est sur d'autres critiques qu'elle pose aussi ça. Donc, selon Rosa Luxembourg, on ne peut pas protéger de manière définitive, avec des moyens bureaucratiques ou autres, l'organisation socialiste des influences de la société environnante. Il faut accepter cette contradiction, assumer cette contradiction, cette antinomie, en la faisant travailler dans le mouvement même, dans le processus. Donc, et cela, elle l'écrit à la fois contre les thèses modérées réformistes de Bernstein et contre les thèses révolutionnaires mais centralistes de Lénine. Dans le texte de 1904 contre Lénine, cette perspective nourrit alors la critique de ce qu'elle pense être les fausses solutions proposées par Lénine. Je cite, « La discipline que Lénine a en vue est inculquée aux prolétariens non seulement par l'usine, mais encore par la caserne ou par le bureaucratisme actuel, bref, par tout le mécanisme de l'État bourgeois centralisé. » Donc, Lénine veut protéger l'organisation révolutionnaire de l'influence de la société capitaliste, et pourtant il utilise une forme centralisée de parti, qui ressemble à l'usine et à l'État capitaliste. Bon. D'où une des conclusions qui sont opposées à celles de Lénine quant à la conception de l'organisation. Je cite, « Ce n'est pas en partant de la discipline imposée par l'État capitaliste au prolétariat, après avoir simplement substitué à l'autorité de la bourgeoisie celle d'un comité central socialiste, ce n'est qu'en extirpant jusqu'à la dernière racine ses habitudes d'obéissance et de servilité que la classe ouvrière pourra acquérir le sens d'une discipline nouvelle, de l'autodiscipline librement consentie de la social-démocratie. » Donc, l'idée ici, c'est qu'on doit avoir un processus, on ne doit pas partir de la discipline et de l'autorité qui existent dans la société capitaliste, mais peu à peu, on doit faire naître quelque chose de différent des habitudes d'obéissance et de servilité que génère la société capitaliste. Pour peu à peu avoir des aptitudes, des capacités à l'auto-émancipation, elle parle d'auto-discipline librement consentie. Donc, un travail pour extirper les habitudes d'obéissance et de servilité, et donc pour extirper les habitudes d'obéissance et de servilité, on ne peut pas utiliser des formes de discipline ultra-centralisées et de formes d'organisation, disons, centralisées du parti. Et ici, Rosa Luxembourg n'a pas peur des erreurs, car pour elle, il s'agit d'apprentissage collectif, et donc les erreurs ont un rôle positif dans l'apprentissage collectif. Elle ajoute donc, le seul sujet auquel incombe aujourd'hui le rôle de dirigeant est le moi collectif de la classe ouvrière, qui réclame résolument le droit de faire elle-même des fautes et d'apprendre elle-même la dialectique de l'histoire. Les erreurs commises par un mouvement ouvrier vraiment révolutionnaire sont historiquement et infiniment plus fécondes et plus précieuses que l'infaillibilité du meilleur comité central. les erreurs commises par un mouvement ouvrier vraiment révolutionnaire sont historiquement infiniment plus fécondes et plus précieuses que l'infaillibilité du meilleur comité central. Il y a donc ici, chez Rosa Luxembourg, une amorce de composantes, on pourrait dire, expérimentales dans la vision de la politique, avec un apprentissage, avec un jeu d'essais, d'erreurs, de rectifications. On pourrait dire, parce que c'est le sens que ça a dans la philosophie américaine, on pourrait dire une composante pragmatiste au sens d'un courant de la philosophie américaine qu'on appelle le pragmatisme philosophique, notamment représenté par un penseur très intéressant, un penseur de la politique et de la démocratie comme expérimentation, qui est John Dewey, donc 1859-1952, que j'ai indiqué au tableau. Dewey nous invitait justement à concevoir la politique et la démocratie comme des processus expérimentaux inscrits dans des logiques essais, erreurs, rectifications. Alors, dans cette galaxie pragmatiste, donc, Rosa Luxembourg développe alors un point de vue qu'on pourrait qualifier analogiquement d'organique. Organique par rapport à la vie organique, c'est-à-dire c'est basé sur le mûrissement, la fécondation, le processus. Bon, il y a la dimension de la vie organique qui est engagée dans les métaphores de Rosa Luxembourg. Alors que les métaphores de Lénine sont beaucoup plus mécaniques. Et il y a l'idée que des mécanismes formels, au bout du compte bureaucratiques, peuvent apparaître comme des garanties pour que les choses aillent dans la bonne direction. Et donc chez Rosa Luxembourg, la politique révolutionnaire apparaît plus explicitement comme un pari avec une composante d'incertitude et aucune garantie définitive. Alors qu'on cherche des garanties formelles du côté de Lénine, des garanties, on pourrait dire, bureaucratiques. Elle va aussi critiquer les pratiques bolcheviques après la révolution russe de 1917, dès 1918, dans une brochure qu'elle va rédiger dans sa prison en Allemagne, alors qu'elle est en prison parce qu'elle est opposée à la guerre, en tant que révolutionnaire. Brochure qui s'intitule « La révolution russe » et qui ne sera publiée qu'après sa mort. Elle écrit donc cette brochure à l'automne 1918. Elle écrit notamment « Assurément, toute institution démocratique, comme toutes les institutions humaines d'ailleurs, a ses limites et ses défauts. » Il n'y a pas d'infaillibilité des institutions démocratiques. Mais le remède inventé par Lénine et Trotsky au début de la révolution bolchevique en 1917, le remède inventé par Lénine et Trotsky qui consiste à supprimer la démocratie en général est pire que le mal qu'il est censé guérir. Il obstrue en fait la seule source vivante d'où peuvent sortir des moyens de corriger les insuffisances congénitales des institutions sociales, à savoir la vie politique active, libre, énergique de larges masses populaires. Donc le problème pour la révolution, c'est justement d'éviter la bureaucratisation. Et donc, il ne s'agit pas de supprimer la démocratie pour éviter la bureaucratisation. Au contraire, il faut essayer de développer la seule source qui permet de rectifier les tendances bureaucratiques, c'est cette vie politique active, libre, énergique de large masse populaire. Et elle ajoute, la liberté seulement pour les partisans du gouvernement, pour les membres d'un parti, aussi nombreux soient-ils, ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Non pas par fanatisme de la justice, mais parce que tout ce qu'il y a d'instructif, de salutaire et de purifiant dans la liberté politique tient à cela et perd de son efficacité quand la liberté devient un privilège. Ici, c'est intéressant parce qu'on a une vision chez Rosa Luxembourg, non pas d'une inspiration kantienne, puriste, il ne s'agit pas d'un impératif catégorique, hein. Elle dit, non pas par fanatisme de la justice, mais une vision quasi-sociologique des institutions démocratiques et de la liberté politique. Les institutions démocratiques et les libertés politiques, malgré leurs défaillances, sont considérées comme des dispositifs imparfaits qui peuvent contrebalancer les tendances à la bureaucratisation. Donc c'est le caractère sociologique de la démocratie et de la liberté politique, des institutions démocratiques qui est en jeu, non pas la transformation de la démocratie et de la liberté en impératif catégorique indépendamment des situations. Donc on n'a pas une vue kantienne des principes démocratiques et de la liberté, mais on a une vision sociologique de ces principes. En même temps, Rosa Luxembourg va s'opposer à l'anarcho-syndicalisme français qui est très puissant. La CGT, les bourses du travail, sont dominées par des militants libertaires en France. Et dans l'anarcho-syndicalisme, on trouve un refus de la lutte partisane et de la lutte parlementaire au profit de la seule lutte syndicale pour les bourses du travail et pour la CGT de l'époque. C'est le syndicat qui est la base d'organisation de la société future et donc les partis politiques, etc. sont des parasites. Donc elle va s'opposer à cet anarcho-syndicaliste tout en se défiant de la focalisation sur l'action parlementaire qu'elle trouve chez Jaurès à l'époque. Elle passe plusieurs mois en France et elle va critiquer à la fois les anarcho-syndicalistes et Jaurès. C'est-à-dire la déviation qui est tout est dans le syndicat et pas de parti et pas d'action parlementaire, et la tentation de Jaurès de tout focaliser sur l'action parlementaire. Et elle prône alors, dans cette discussion entre anarcho-syndicalisme et Jaurès, elle prône une nécessaire articulation entre ce qu'elle appelle l'action extra-parlementaire du prolétariat, elle appelle ça aussi l'action directe, dont l'action syndicale, et puis l'action parlementaire. Bon. On voit bien ici que le point de vue de Rosa Luxembourg ne rejoint pas complètement le pôle anarchiste kantien, mais peut plus se rapprocher de ce que j'ai appelé le pôle anarchiste pragmatiste, celui de Proudhon. C'est-à-dire, elle intègre une critique libertaire du parlementarisme et du bolchevisme, mais, contrairement à certains anarchistes kantiens, elle assume ce qu'elle appelle la contradiction dialectique où se meut le mouvement socialiste. La contradiction dialectique où se meut le mouvement socialiste. C'est une pensée de l'antinomie, comme chez Proudhon. Elle ne peut donc que récuser toute illusion anarchiste quant à la pureté des moyens, quant à la supposée congruence des moyens et des fins, puisque les moyens sont toujours pris dans la société existante. Ceux qui luttent contre la société capitaliste lui ressemblent. Les associations, les syndicats, les partis, les individus ressemblent d'une certaine façon ou sont influencés par la société qu'ils combattent puisqu'ils vivent dans cette société. Donc ils ne peuvent pas utiliser des moyens qui sont ceux de la société future qui n'existe pas encore. Donc nécessairement, il y a une proximité entre les moyens utilisés et la société telle qu'elle est, et donc un écart entre les moyens qu'on utilise et les fins qui sont poursuivies, les fins libertaires et émancipatrices. Voilà le paradoxe que n'assument d'une certaine façon jusqu'au bout ni les anarchistes ni les bolcheviques. Les bolcheviques pensent se préserver de cette antinomie en fermant l'organisation. Bon. Mais aucun des deux n'assume frontalement ce paradoxe, cette antinomie. D'une certaine façon, Rosa Luxembourg emprunte leur réalisme sociologique aux bolcheviques et leur critique libertaire des institutions aux anarchistes. Voilà la deuxième scène, première scène, la scène philosophique, Kant, Machiavel, puis une scène politique où on a vu se déplacer cette première scène avec anarchistes kantiens, bolcheviques, et puis l'émergence de quelque chose de différent qui est Rosa Luxembourg. On va passer maintenant à la troisième scène, et ce sera ma dernière partie. C'est un autre éclairage sur cette question, c'est une scène philosophique et politique, c'est la désobéissance civile qui elle aussi pose les questions des rapports entre les moyens et les fins de l'action. Donc la question de la désobéissance civile va nous introduire d'une autre façon dans les débats fin moyen, en nous prenant d'une certaine façon là où on en est resté avec Rosa Luxembourg. C'est-à-dire, avec Rosa Luxembourg, il s'agit de prendre les moyens de l'action émancipatrice dans la société existante, mais afin de la subvertir. C'est le paradoxe, cette antinomie. Prendre les moyens de l'action émancipatrice dans la société existante, afin de la subvertir. On avait fini sur cette antinomie, sur ce paradoxe. Alors, l'entrée dans la désobéissance civile sera une entrée de philosophie politique, entre politique pratique et philosophie. Alors, quelqu'un qui a introduit en philosophie cette question, c'est une philosophe française qui s'appelle Sandra Laugier, notamment dans un livre de 2004 qui s'appelle « Une autre pensée politique américaine », sous-titré « La démocratie radicale d'Emerson à Stanley Cavell ». Et elle prolongera ça avec un livre, avec le sociologue Albert Augien, dans un livre de 2010 qui s'appelle « Pourquoi désobéir en démocratie ?». Donc elle propose une discussion philosophique autour de la désobéissance civile. Il s'agit à la fois d'une philosophie dissensualiste, donc du dissensus, du conflit, et en même temps individualiste de la démocratie. Donc la démocratie s'est vue comme un dissensus, comme un conflit, non pas comme un consensus, comme un accord, et en même temps c'est vu comme quelque chose d'individualiste. On revient à ma première séance sur la question de l'individualité. Cette vision dissensualiste et individualiste de la démocratie est inscrite dans une tradition américaine ignorée en Europe, qui notamment émerge avec deux grands penseurs du début de la pensée américaine, Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, et son ami, les deux sont des amis, Henry David Thoreau, 1817-1862. Et puis ça va jusqu'à un philosophe contemporain américain, Stanley Cavell, qui a été un des relecteurs, disons, d'Emerson et de Thoreau dans la dernière période. Donc, Emerson est un penseur de ce qu'on appelle la confiance en soi, j'y reviendrai, et taureau, c'est celui qui a, disons, explicité la question de la désobéissance civile dans sa petite brochure, la désobéissance civile de 1849. Qu'est-ce qu'explique taureau à l'époque en 1849 aux États-Unis? Pourquoi il a arrêté de payer ses impôts, ce qui l'a amené à aller en prison. Il arrête de payer ses impôts parce qu'il y a la guerre des États-Unis avec le Mexique et qu'une partie des États américains, pas tous, une partie des États américains ont aboli l'esclavage, mais certains maintiennent l'esclavage. Et donc, comme certains États américains maintiennent l'esclavage, comme il y a la guerre avec le Mexique, il considère qu'il est en désaccord avec ses orientations, il arrête de payer ses impôts et il est mis en prison. Donc, c'est le début de la désobéissance civile. Bon. Sandra Logier donc voit dans Emerson une position politique qui revendique la voie du sujet contre le conformisme, contre les usages acceptés de façon non critique et contre les institutions mortes ou devenues non représentatives confisquées. Et dans cette mise en cause du conformisme, l'individualité aurait un élément important de mise en cause du conformisme social. Il s'agit donc d'une visée démocratique radicale qui revendique le droit de retirer sa voix à la société. La désobéissance civile, c'est le fait que je retire ma voix à la société. Par exemple, je retire ma voix à la société en arrêtant de payer mes impôts. Bon. Je cite Sandra Logier, « Toute la pensée de la désobéissance civile est contenue dans ce principe. Je peux refuser que les autres, ou par exemple mon gouvernement, mon pays, parlent et agissent en mon nom. Je peux refuser que les autres, ou par exemple mon gouvernement, mon pays, parlent et agissent en mon nom. » On a ici ce qu'on pourrait appeler la figure d'un individualisme démocratique radical. Dans cette philosophie politique, la collectivité est à la fois préalable à mon intervention individuelle et en même temps un enjeu de mon intervention individuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la collectivité est déjà là quand j'interviens. Pourquoi? Parce que je parle toujours à l'intérieur d'un langage ordinaire qui me précède historiquement, qui est un langage collectif. C'est pas moi qui ai inventé le langage. Donc, le langage est une réalité collective et je parle à l'intérieur de cette réalité collective qui est le langage. Bon. Donc la collectivité, elle est toujours avant moi, bon, d'une certaine façon, puisque je parle avec les moyens de la collectivité à l'intérieur de la collectivité. Ça me précède historiquement. Mais ce langage ordinaire partagé, si familier, ménage des espaces pour le doute et les questionnements, ce que Cavell appelle l'inquiétante étrangeté de l'ordinaire. L'inquiétante étrangeté de l'ordinaire. Et ces doutes et ces questionnements, c'est quoi? Est-ce que j'arrive bien à trouver ma voix VOIX dans la collectivité? Est-ce que ma voix VOIX individuelle se reconnaît dans la voix collective de la collectivité? Est-ce que je suis bien représenté dans cette collectivité par ces représentés? Toutes ces questions, ça fait que le commun, ce qui est commun à une société, apparaît à la fois comme un point de départ et comme un point d'interrogation. C'est un point de départ parce que je parle à partir du commun, et en même temps c'est un point d'interrogation parce que mon intervention va redéfinir ce que c'est que le commun à chaque fois. Sandra Logier écrit « Le commun est toujours objet d'enquête et d'interrogation, il n'est jamais donné. » Une forme paradoxale alors émerge, le dissentiment n'est pas dissolution du consentement mais conflit sur son contenu. Le dissentiment n'est pas dissolution du consentement, mais conflit sur son contenu. C'est-à-dire, le dissensus, le conflit, le refus, la conflictualité, par exemple la désobéissance civile, n'est pas la fin du consentement dans une société, mais c'est un conflit sur le contenu de ce consentement. Et donc, ça participe aussi d'une certaine façon du consentement. C'est pourquoi je peux retirer ma voix au consensus. Je peux retirer ma voix au conformisme. Même, on pourrait dire, je dois retirer ma voix au conformisme. Quand je ne reconnais plus les valeurs de la collectivité dans la voix des représentants de la collectivité. Donc je retire ma voix, VOIX. On a là une figure individualiste, mais pas égoïste, qui s'efforce d'articuler autrement le je et le nous. Pas égoïste, parce qu'il s'agit bien de la définition du commun, mais complètement individualiste, parce que c'est de ma responsabilité personnelle. C'est moi qui peux retirer ma voix personnellement. Donc on a quelque chose comme un paradoxal individualisme communautaire. Les États-Unis sont beaucoup stigmatisés comme étant communautaristes, et là, on voit bien que la tradition américaine, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant et subtil, un individualisme communautaire. On le voit très bien ça dans les westerns de John Ford, dans les personnages notamment joués par John Wayne, où on a à la fois une forte présence de la collectivité, une forte présence des valeurs de la collectivité et un fort individualisme. Chacun se défend individuellement d'une certaine façon. Donc les deux, disons, sont fortement associés dans ce paradoxe. Ce courant de la pensée américaine, Salvé Cavell l'appelle le perfectionnisme moral. Pourquoi perfectionnisme moral? Non pas comme si on pouvait atteindre une perfection finale, mais comme un mouvement infini de perfectionnement individuel et collectif. Un mouvement infini de perfectionnement individuel et collectif. En perfectionnant la collectivité, je me perfectionne moi-même dans ce mouvement infini. Donc, perfectionnisme moral. Alors, on comprend peut-être mieux cette dimension du perfectionnisme moral si on revient sur les textes de Emerson. Notamment, ce texte classique de 1841, alors qu'on a souvent traduit comme confiance en soi, que Sandra Logier préfère traduire comme par confiance dans son autonomie, donc le titre américain c'est self-reliance, confiance en son autonomie. Alors, l'autonomie individuelle, dans la confiance dans son autonomie, est opposée au conformisme. Il y a un anticonformisme clairement individualiste chez Emerson. La vertu la plus prisée est le conformisme, je cite Emerson. L'indépendance et l'autonomie en sont le versant opposé. La société n'aime ni les réalités, ni les créateurs, elle préfère les noms et les coutumes. Celui qui veut être un homme doit être non conformiste. Celui qui veut être un homme doit être non conformiste. Alors, est-ce que cette critique du conformisme serait un appel à une élite qui se situerait au-dessus de la masse et qui... des citoyens ordinaires qui prétendraient, elles, être non-conformistes, comme ça arrive souvent. Non, l'anticonformisme d'Emerson est un anticonformisme accessible à tous les hommes ordinaires. C'est un anticonformisme démocratique, qui découle de l'égalité démocratique. Dans une démocratie, chaque humain serait idéalement doté donc d'une commune humanité, à la différence des sociétés basées sur des logiques hiérarchiques, Et cela manifeste entre autres par un double principe, un égal accès à la raison, chacun peut avoir accès à la raison pour critiquer le monde, et à des droits égaux. Or, face à ça, les ordres sociaux dominants, y compris les ordres sociaux qui se réclament de la démocratie, qui se disent démocratiques, tendent à développer une mentalité suiviste, homogénéisatrice, conservatrice, conformiste. Le conformisme tend à leur régner souvent au double détriment du développement de l'individualité de chacun et au détriment de la quête d'un bien commun. C'est en ce sens-là qu'il faut entendre la phrase d'Emerson « Partout la société conspire contre l'humanité de chacun de ses membres. » Partout la société conspire contre l'humanité de chacun de ses membres. La société au sens de cette tendance au conformisme, au suivisme. Contre cette tendance, la commune humanité démocratique serait alors une invitation à ce que chacun développe son individualité. Car pour Emerson, il y a une articulation entre les visées d'autogouvernement de la société, c'est ça la démocratie, autogouvernement de la société, gouvernement de la société par elle-même, et l'idée d'autogouvernement de la personne par elle-même, hein, autogouvernement des individus par eux-mêmes, autonomie. Il y a un lien entre autogouvernement de la société démocratique et autogouvernement de la personne par elle-même. La démocratie apparaît donc comme une association d'individualité et comme une adhésion conservatrice aux coutumes et aux stéréotypes en usage. Emerson ajoute, le jour où les hommes inconnus, et il parle bien aux hommes inconnus, aux hommes ordinaires, le jour où les hommes inconnus agiront d'après des vues originales, l'éclat passera des actes des rois à ceux des hommes justes. L'éclat passera des actes des rois à ceux des hommes justes. Alors, Emerson est parfois tenté par les protections de la solitude, afin de consolider l'autonomie de chacun. Mais en même temps, de manière, disons, ambivalente, il est attaché à l'amour et à l'amitié. Il voit d'ailleurs idéalement la démocratie dans certains de ses textes comme une nation d'amis et qui récuserait les comportements égoïstes au profit de ce qu'il appelle la valorisation du sentiment moral et de la quête du bien commun. Donc pour Emerson, il y a une individualité forte qui peut réclamer la solitude mais qui est insérée dans un cadre moral et politique. Il approfondit d'ailleurs cette tension-articulation dans un beau texte de 1870 qui a été récemment traduit en français qui s'appelle « Société et solitude ».« Société et solitude ». Je cite Emerson, je l'avais utilisé dans un article que j'avais fait pour Libération revenant sur les chansons de Brassens, c'est des visions très proches de l'anarchisme de Brassens. Bon. La solitude est impraticable et la société fatale. La solitude est impraticable et la société fatale. Nous devons garder la tête dans l'une et nos mains dans l'autre. Nous devons garder la tête dans l'une, la solitude, et nos mains dans l'autre, dans la société. Nous y parviendrons si nous conservons notre indépendance sans perdre notre sympathie. Nous y parviendrons si nous conservons notre indépendance, notre autonomie individuelle, sans perdre notre sympathie, donc notre sociabilité. Donc, la solitude est impraticable et la société fatale, nous devons garder la tête dans l'une et nos mains dans l'autre. Nous y parviendrons si nous conservons notre indépendance sans perdre notre sympathie. Ici, entre solitude et société, il y a bien une antinomie aussi qui ne se résout pas complètement, il y a une sorte d'équilibre. Solitude, amitié, repère, éthique, règle collective, donc la pensée d'Emerson apparaît travaillée de manière différente en fonction des moments, des textes, etc., par à la fois des articulations et des antinomies irréductibles entre ces quatre pôles, solitude, amitié, repère éthique, règle collective. Toujours ces antinomies hein, qui ont traversé mon propos d'inspiration proudhonienne. Alors, maintenant je développerai une petite conclusion pour finir, et puis j'aurai aussi un post-scriptum, donc, et puis on va écouter deux chansons, donc ça, là, c'est pas tout à fait fini. Si je fais le point sur le parcours qui nous a mené de Kant et Machiavel à Bakounine, Trotsky, Rosa Luxembourg, puis à Emerson et à Soro, il y a, on peut dire, quelques points forts qui émergent à mon avis. Un appel à se confronter aux antinomies et aux impuretés de l'expérience. Non pas essayer de purifier l'expérience, mais se confronter aux antinomies et aux impuretés. Premier élément. Une approche des rapports entre fin et moyen de l'action plus expérimentale et plus pragmatiste, qui va assumer à la fois des éléments de continuité entre les moyens et les fins, mais aussi des éléments de discontinuité relative entre les moyens utilisés et les fins visées. Deuxième élément fort. Troisième élément fort, une capacité à se saisir des ressources critiques déjà présentes dans les idéaux d'une société pour subvertir cette société, pour subvertir le conformisme des sociétés existantes. D'une certaine façon, une partie des idéaux qui appellent une société autre, ils sont déjà dans cette société, dans les idéaux de cette société. Mais ils sont, voyons, liberté, égalité, fraternité, ils sont pervertis par cette société, donc c'est des points d'appui. C'est là-dessus qu'intervient la désobéissance civile au sens d'Emerson et Soro. Enfin, quatrième point fort, une façon de lier différemment individualité et cadre collectif. Hein, il s'agit bien toujours de lier individualité et cadre collectif, pas en mettant l'individualité isolée, indépendamment des cadres collectifs, non pas en aplatissant les individus sous le poids du collectif, mais dans une nouvelle association, dans une logique qu'on pourrait dire de coopération des individualités. Ça, c'est les quatre points forts qui marquent de cette discussion. Alors, justement, et on va pouvoir passer aux deux chansons. Deux chansons prennent à bras le corps ces questions, notamment de la désobéissance civile, au carrefour de l'individuel et du collectif. Alors, on va les passer successivement. Je ne vais pas peu les commander parce que il y en a une, ça, c'est donc une chanson de Souchon de 76, S'asseoir par terre, une plus récente d'une rappeuse, Kenyar Kana, 2008, désobéissance civile. On a deux figures différentes. De la désobéissance civile, on a chez Souchon un refus individuel qui est un appel à l'élargissement, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'arrête et qui appelle à ce que ça s'élargisse vers du collectif, donc il y a le refus individuel au départ. Et chez Kenny Arcana, on a déjà d'emblée un mouvement social des individualités, donc on a déjà la forme du mouvement social. Ça va partir. Et donc là, on voit bien ce mouvement d'arrêt, hein, de refus du fonctionnement de la société, du conformisme, et un arrêt qui est une sorte, on pourrait dire que c'est le précurseur des mouvements des indignés, s'arrêter, se mettre par terre et s'arrêter, et arrêter tout, quoi. Donc là, on a bien ce mouvement, et donc on va voir une vision plus mouvement social dans le texte de Kenny Arcana maintenant, qui s'appelle justement la désobéissance civile. Bien, donc là, ça prend plus immédiatement la dimension de l'actualité sociale, politique, mondiale et d'un mouvement social, qui est aussi une sorte de rupture, hein, des responsabilités individuelles dans un mouvement collectif. Donc, cette articulation, tension entre l'individuel et le collectif, elle constitue une des tendances transversales des trois cours que j'ai proposés cette année, justement pour repenser la contestation radicale. Première tendance, donc, repenser cette articulation tension individuelle-collectif. Deuxième tendance, c'est justement assumer pleinement ce que Proudhon appelle l'équilibration des contraires, les antinomies, plutôt que de chercher l'harmonie, plutôt que de chercher, disons, la synthèse. Et donc, je finirai pour, dans un post-scriptum d'actualité, sur une de ces antinomies actuelles, que j'ai vu à travers un texte intéressant que j'ai trouvé dans Le Monde de ce week-end, Le Monde du 11-12 décembre 2011. Donc c'est un texte du poète et écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau, donc qui s'est intitulé une tribune d'une page du Monde qu'on pouvait retrouver sur Internet, qui s'appelle Franz Fanon côté Sèvres. Alors ça fait partie de ces textes qui sont autour des débats aujourd'hui autour de Franz Fanon qui était ce militant, écrivain, médecin, psychiatre anticolonial, martiniquais et français d'origine, qui a fait le choix de s'engager dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et qui a fait le choix de la nationalité algérienne, bien qu'il soit mort avant l'indépendance, mais le FLN l'avait enterré à quelques mètres en territoire algérien pendant la guerre. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte de Patrick Chamoiseau, c'est justement l'opposition entre l'arbre, c'est une dimension un peu métaphorique, entre l'arbre généalogique et l'arbre relationnel pour identifier les rapports entre identité individuelle et identité collective. Alors, c'est une rupture avec une tendance à la fermeture des identités autour d'un seul axe, que ce soit les identités nationales, hein, autour de, comme si un individu se définissait principalement autour d'une identité nationale fermée, ou par rapport à des identités communautaires ou religieuses complètement fermées. Donc là, on va avoir une vision, ça serait l'arbre généalogique, on a une vision différente. Bon. Alors, l'ancien arbre généalogique nous compte cantonner dans les branches et les feuilles d'une lignée intangible d'ancêtres, de traditions, de genèse et de cosmogonie monolithique. Il nous immobilisait sur le pieu d'une racine unique qui nous plantait dans une seule terre natale. Ça, c'est l'arbre généalogique. On est défendu par une seule identité, on a une seule racine. Bon. L'arbre relationnel, lui, nous déploie sur un treillis des racines, des rhizomes qui, au gré de nos errances ou de nos expériences, nous offrent plusieurs terres natales. Plusieurs terres natales. Le rhizome est l'instance d'un devenir incessant, qui est toujours ouvert. Et donc un devenir. Dès lors, l'arbre relationnel nous autorise à choisir la terre natale qui nous convient le mieux, et même à en changer si notre relation aux fluidités du monde se trouve à changer. Les branches et les feuillages de l'arbre relationnel sont une constellation toute personnelle, donc singulière, de dieux, de langues, de lieux, de pays, de facettes culturelles, d'éclats, de civilisations, d'aveuglement individuel et de lucidité. Et tout cela est ouvert sur le vertige d'un monde globalisé et explosé continuellement en nous. Alors, premier élément, qu'est-ce que c'est que l'identité? C'est pas une identité fermée. Or, aujourd'hui, sans doute, que la façon de définir l'identité comme l'arbre généalogique, on a une seule généalogie, on a une seule souche, et on est enfermé dans une identité. C'est sans doute la vision classique de, et autour notamment aujourd'hui de l'identité nationale. On peut dire que si on va de Marine Le Pen jusqu'à Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon, l'arbre généalogique national est la définition principale de l'identité. Or, l'arbre relationnel est complètement différent de cette vision. Premièrement, il y a chaque être individuel est une singularité métissée d'identités collectives diverses. C'est-à-dire que chacun est fabriqué avec des identités collectives et pas avec une seule. Donc, ce n'est pas une négation des identités collectives, parce que dans le cadre de Fanon, il n'y a pas de négation de l'identité martiniquaise et de l'identité française d'origine quand il adopte l'identité algérienne. On a un métissage des identités, on n'a pas une négation. Mais il n'y a pas focalisation sur une seule identité. C'est-à-dire, personne n'est refermé, c'est ce qui fait sa singularité individuelle, personne n'est refermé sur une seule type d'identité collective. Premier élément. Deuxième élément, la singularité personnelle, plus riche, a besoin non pas de moins de monde, mais de plus de monde. C'est l'opposition la plus radicale à quelque chose qui a été à la mode ces derniers temps, la démondialisation. La démondialisation, c'est un slogan qui dit « il faut moins de monde hein, ». Il faut sortir du monde, il faut moins de monde. Là, en fait, pour être plus singulier, il faut plus de monde encore. En fait, il ne faut pas une démondialisation, nous dit Chamoiseau, il faut une surmondialisation. Il faut davantage de mondialisation pour, il faut davantage de monde pour construire les singularités individuelles. Donc. Et là, on voit bien ici qu'à travers cette dichotomie entre l'arbre généalogique et l'arbre relationnel, on a bien une dichotomie forte entre deux choses qui sont quelque chose qui est fragile et quelque chose qui est très enraciné, institué. L'arbre généalogique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la grande partie des politiques instituées de Marine Le Pen, Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon autour de l'identité nationale. Je rappellerai, parce que ça m'a un peu choqué quand je l'ai lu il y a quelques semaines seulement, mais comment Arnaud Montebourg, dans son livre « Voter pour la démondialisation », explique que les Allemands sont égoïstes, que les Chinois sont voleurs, et que le problème principal de la politique, donc, c'est de convaincre ces égoïstes d'Allemands d'avoir le point de vue vrai, le point de vue français, bien sûr, pour combattre quoi? Les Chinois, la menace chinoise. Et donc, en fait, en gros, c'est pour gagner des parts de marché par rapport aux Chinois. Bon. Et donc, on voit bien cette dégradation terrible avec toute la xénophobie que ça porte de cette vision des choses. Bon. Donc, on a là l'arbre généalogique. Bon. L'arbre relationnel, c'est l'altermondialisme. C'est ce qui a esquissé de manière extrêmement fragile depuis une dizaine d'années, l'altermondialisme. Et c'est ce qui émerge de manière extrêmement tâtonnante à travers ce qu'on a appelé les mouvements des indignés à l'échelle internationale, c'est-à-dire la façon dont des ressources traversent les frontières pour constituer des identités. Comment on va puiser des ressources dans les révolutions arabes, comment les Espagnols par exemple, comment ensuite les Américains vont utiliser des ressources dans la situation espagnole et arabe, etc. et comment c'est métissé avec les identités existantes. Donc on a cet arbre relationnel qui est, et là on a sans doute, disons, un élément pour éclairer les situations actuelles, cette opposition entre l'arbre généalogique, qui est une façon de concevoir l'identité, et l'arbre relationnel, qui est une autre façon, disons, de concevoir l'identité. Et cet arbre relationnel, il est ouvert sur l'avenir, il est ouvert sur la recomposition, il est dans les tensions entre différentes identités, différents repères. Il n'est pas fermé sur une forme d'identité. Donc, il est dans la logique de ces antinomies dont j'ai parlé, qui associent de manière nouvelle des identités collectives et une identité individuelle singulière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour l'ensemble du cours.